festival. C'est donc Sylvie Bayon qui va animer cette échange. Does anybody doesn't speak French? Ok, donc je laisse Sylvie introduire. Merci.
Donc la thématique de ce matin, c'est Festival de marionnettes, quelle liberté de programmation. La fabrique d'une programmation artistique est composée d'un fin maillage entre choix artistiques et contraintes diverses. Sur quoi reposent les choix artistiques et les choix budgétaires? Comment les contraintes politiques influent-elles sur les choix et les lignes artistiques défendues par les programmateurs et actrices de festival? Quelle influence les publics exercent-ils sur la programmation? Alors j'ai le plaisir d'accueillir Dany Lefrançois et
Benoît Lagrandeur
du Festival des Arts de la Marionnette, International des Arts de la Marionnette à Saguenay au Québec, et Anne Decour, directrice du festival Récidive à Dives-sur-Mer. Et voilà. Alors. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce festival s'est construit, pourquoi, comment, à quoi il correspond?
Donc le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Donc il faut dire que Saguenay est une ville qui est au nord du Québec, à 500 km au nord de Montréal. Combien d'habitants?
140 000
habitants. C'est le premier festival international qui a été créé au Québec en 89. C'est un festival biennal, donc il a lieu à tous les deux ans. Il y a comme eu trois grandes périodes dans l'histoire du festival. La première période, le festival s'appelait la Semaine mondiale de la marionnette à Jonquière. Ensuite, le festival à cette époque avait lieu en période estivale, donc au mois de juin, je crois.
Oui, fin juin.
Ensuite, il y a eu dans la dernière décennie la période Manigance, donc le festival s'appelait Manigance et avait lieu en septembre, donc beaucoup plus pour la clientèle scolaire. Et puis depuis deux ans, le festival maintenant s'appelle le FIAMS, donc le diminutif de Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Et donc on a remis le festival en période estivale, c'est-à-dire en juillet. Donc on a tenu la 13e édition en juillet dernier qui vient de se passer. Donc le festival, comme je vous disais, a lieu à tous les deux ans. On est en train de préparer la prochaine programmation de la 14e édition qui aura lieu à l'été 2017.
Et il s'agissait de notre première édition à titre de co-directeur artistique. Donc notre expérience se limite quand même à l'organisation d'une édition.
C'est à moi que...
Oui, et puis je vais préciser les questions.
Ouais.
Alors, donc, bonjour. Donc, moi, je dirige le festival. Alors, anciennement, ce festival s'appelait le festival de la marionnette de Dives-sur-Mer. C'est un festival qui est né en 1986. Dives-sur-Mer, c'est une toute petite commune d'un peu moins de 6000 habitants qui a un passé ouvrier important. Il y avait une grosse usine de métallurgie à Dives-sur-Mer qui faisait vraiment vivre toute la commune pendant un siècle. Et cette usine de métallurgie, elle a fermé en 86. Et suite à ça, les élus de l'époque, le maire de cette petite commune, son adjointe à la culture et puis quelques personnes de Dives ont choisi de miser sur la culture et de créer un festival de marionnettes. Parce qu'à l'époque, il y avait des marionnettistes, une compagnie qui s'appelait Le Philosophe, qui est devenu le Théâtre Fausse, qui était en résidence à Dives-sur-Mer. Il se trouve qu'ils étaient là. Donc la ville a choisi de créer ce festival de marionnettes en 1986 pour essayer de redonner le sourire un petit peu aux gens qui vivaient là, suite à ce grand drame économique. Donc au départ, c'est vraiment... Donc il y avait une association pour le festival, et puis en 89, Patrick Boutigny est arrivé à la direction de ce festival. Il l'a dirigé jusqu'en 2010. Et donc, que je ne me trompe pas dans les dates, en 2005, parallèlement, si vous voulez, à ce festival, a été créé un lieu de résidence pour les artistes marionnettistes à Dives-sur-Mer, qui s'appelle le CREAM, le Centre Régional des Arts de la Marionnette, qui porte un nom comme ça, très institutionnel. En fait, ça reste une petite association. Mais en tout cas, Patrick Boutigny, à l'époque, avec les élus qui étaient là en 2005, donc 20 ans plus tard, on fait le choix aussi d'un lieu pour la création marionnettique à Dives-sur-Mer en parallèle de ce festival qui existait. Et puis donc Patrick a pris sa retraite en 2010, et donc moi je suis arrivée en 2012. Et depuis 2013, le festival, on a donné une identité à ce festival. Il s'appelle Récidive, Festival de marionnettes et de formes animées. J'ai aussi fait le choix de ce sous-titre à ce nom de festival pour bien exprimer que ce qu'on présente sur ce festival, c'est la marionnette au sens large, la marionnette et les arts associés. C'est un festival qui reste modeste, mais en taille, mais qui est quand même un des plus anciens en France dédié à la marionnette. Peut-être on va rentrer dans les détails plus tard, mais sur la programmation et les choix. Mais, voilà.
Comment vous faites votre programmation à Saguenay?
Premièrement, on a une dynamique particulière parce qu'on est deux directeurs, donc deux co-directeurs artistiques. Je peux parler un petit peu de mon parcours parce que tout à l'heure Benoît précisait que l'édition qu'on vient de tenir était notre première édition en tant que directeur de festival. Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, je développe une carrière en tant que marionnettiste. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Entre autres, j'ai fondé ma propre compagnie qui s'appelle La Tortue Noire, qui sommes spécialisés, si on veut, dans la tournée internationale. Donc déjà, j'avais certains contacts à l'étranger et j'ai donc bénéficié des spectacles que j'ai pu voir justement quand on était invité pour la Tortue Noire à aller présenter un spectacle. Souvent, j'en profitais pour aller voir d'autres spectacles, rencontrer des artistes à l'étranger. Donc ça a permis déjà d'avoir une base de connaissances ou un minimum de réseau pour pouvoir déjà contacter soit des programmateurs à venir assister à notre événement aussi, mais bien entendu des artistes pour venir présenter leur spectacle. Et on est venu il y a 2 ans au festival ici. C'était vraiment le début de notre dynamique, si on veut. Et on a fait une bonne part de notre programmation à partir des spectacles qu'on avait vus ici il y a 2 ans.
Moi, je suis directeur également du théâtre La Rubrique, qui est une compagnie de production de théâtre de création pour adultes, et on a également un mandat on appelle ça au Québec, diffuseur spécialisé. Donc en plus de notre production annuelle, moi j'accueille chaque année entre 12 et 14 spectacles pour tous les publics, et ça fait déjà 12 ans qu'on fait ça, et dès la première saison déjà je programmais spontanément des spectacles de marionnettes, tant pour adultes que des spectacles jeunesse, parce que pour moi la marionnette n'a jamais été quelque chose de si particulier que ça. Pour moi, je dirais, un bon spectacle de théâtre, qui soit du théâtre d'acteur ou du théâtre de marionnette, c'est un bon spectacle. Et au cours de ces années-là également, j'ai souvent été porteur, on appelle ça être porteur de dossier, lorsqu'on veut faire venir un spectacle de l'étranger, qu'on ait quelques diffuseurs à vouloir le même spectacle, on désigne un de ces diffuseurs-là pour porter une demande au Conseil des arts et des lettres du Québec pour faciliter l'afflux de spectacles étrangers. Donc j'avais déjà cette expertise-là, cette connaissance-là un peu de comment fonctionnent ces réseaux-là. Et j'avais cet intérêt-là qui est toujours là pour la marionnette, et que là, j'ai encore plus développé justement en venant voilà 2 ans au festival ici. Et là, j'ai été, flabbergasté, comme on dit en québécois, par l'étendue des propositions, par le côté très très contemporain, la fusion des arts de plus en plus avec la marionnette, et ça m'a encore plus séduit, encore plus enclin à vouloir travailler pour le festival.
Tout à l'heure, je précisais la période dans l'année où le festival avait lieu. Ça devait paraître très important, mais ça l'est en effet. Le fait que le festival ait lieu soit à l'automne ou en période estivale, c'est pas la même dynamique. Les spectateurs arrivent pas dans le même état d'esprit. Ils arrivent pas nécessairement avec le même budget non plus. Et c'est pas exactement la même clientèle si on fait affaire aux écoles ou si on fait affaire plutôt aux touristes qui viennent pour assister à l'événement. Donc ça peut aiguiller nos choix. Il faut dire aussi que notre événement a une programmation intérieure et une programmation extérieure, donc ça aussi, ça aiguille bien entendu une forme de sélection. Et on s'adresse à tous les publics, donc aussi bien au public
que petite enfance, qu'adulte, qu'aux
professionnels, qu'aux personnes qui ont vu beaucoup de marionnettes et ceux qui vont s'initier au cours de cet événement-là. Donc, notre événement ratisse très large. Donc, il faut aussi que notre vision soit large et très ouverte quand on assiste à des spectacles ou quand on essaie de planifier une future programmation.
Et il dure combien de temps?
6 jours.
6 jours.
La dernière édition, vous voyez, il y avait 30 spectacles, 18 en salle et 12 en extérieur.
Ben, moi, c'est exactement la même chose. La programmation s'adresse à tous les publics, de la petite enfance jusqu'aux adultes. Et ça a toujours été le cas historiquement. Il y a toujours eu de la marionnette pour adultes à Dives-sur-Mer. J'ai aussi un petit peu de rue, un petit peu de choses en extérieur et en salle. Nous, le festival, il dure maintenant... alors, il dure 5 jours. Mais bon, cet été, ce sera probablement 4. J'expliquerai pourquoi. Donc voilà, 5 jours, on accueille entre 15 et 20 compagnies chaque année, enfin entre 15 et 20 spectacles plutôt par année. Voilà, un petit peu comme vous en fait, j'ai l'impression. Pour, je sais pas, une trentaine, une cinquantaine de représentations. Alors tout dépend parce que je programme aussi beaucoup de petites formes. J'aime bien organiser des parcours de formes courtes. Je trouve que c'est des moments intéressants pour le public de découverte d'une diversité de ce qui existe dans les esthétiques de la marionnette, des formes animées. Donc il y a ça aussi, il y a beaucoup de formes courtes. J'aime beaucoup les entresorts aussi. Voilà, donc il y a vraiment de tout, c'est très éclectique. Moi je considère qu'un festival, on me demande souvent par exemple sur une édition, est-ce qu'il y a une thématique à cette édition de festival? Moi je trouve que dans la marionnette c'est pas nécessaire, dans le sens, selon moi en tout cas, un festival est censé présenter l'éclectisme. La marionnette c'est tellement vaste, moi j'ai envie avec ce festival d'essayer de présenter voilà, différentes esthétiques de ce qui existe. J'aime pas poser une thématique, je trouve que déjà on a un éventail de propositions tellement large que voilà, j'ai plutôt envie de montrer ça, que c'est très éclectique la marionnette et non pas d'être sur une thématique. Et en même temps, je dis ça, l'année prochaine, par exemple, j'ai envie de faire un focus sur le numérique, parce que bon, il se passe tellement de choses passionnantes à ce niveau-là, mais ce sera un focus, on fera pas qu'un festival sur le numérique, quoi, je pense.
Est-ce que vous avez déjà des spectacles que vous avez repérés qui vous ont inspiré la thématique, ou vous avez vraiment une thématique et que là vous allez voir?
Oui, j'ai déjà vu des propositions qui m'ont donné envie de faire cette thématique sur le numérique. Ouais.
La thématique va souvent se développer en fonction de ce qu'on sent déjà qui est en train d'émerger.
Bah, voilà, il se passe des choses. Bah, Françoise qui est arrivée va pouvoir en parler parce que chez toi il y a du numérique aussi cette année.
Alors, Françoise Flabat, directrice du Centre de la marionnette de Wallonie...
De la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Je me trompe toujours, voilà.
Partie francophone du pays.
La question, c'est... les festivals.
Oui.
Comment tu fabriques ton festival? Quelle histoire il a?
Le festival s'appelle Découverte d'images marionnettes. Il a été créé début des années 2000... Je crois que c'était 2001. Et en fait, il a été créé à l'époque à partir d'une compagnie qui s'appelle le Créateatre, qui est une compagnie contrat programmée dans le théâtre jeune public. Et cette compagnie s'est installée à Tournai dans les années 80 pour y créer un lieu permanent autour de la marionnette à la demande de la ville. Mais dans les années 2000, on a participé à un premier projet européen dans le cadre de Culture 2000 avec des partenaires d'Italie, de France, d'Autriche, Belgique et Pologne. Et ce premier projet européen auquel nous avons participé avait déjà comme objectif et priorité de s'intéresser et de stimuler l'insertion professionnelle des jeunes artistes. Il y avait dans ses partenaires l'école de Zialystok, Théâtre de la Marionnette à Paris, une ville en Autriche, nous qui étions une compagnie, et en Italie un autre théâtre. Et à partir de là, on s'est dit que ce serait bien de créer à Tournai aussi un événement festival pour pouvoir accueillir dans ce cadre-là des jeunes artistes qui sortaient soit d'école ou ayant des parcours d'autodidactes, pour pouvoir les montrer, les présenter, voir un peu ce qui émergeait, et puis aussi, surtout, le faire rencontrer des professionnels internationaux, soit de notre pays ou soit d'autres pays. Et c'est comme ça qu'est né un peu ce festival, cette mise en valeur, c'est pour ça que ça s'appelle Découverte aussi, parce qu'on avait cet accent, en tout cas particulier autour des jeunes artistes. Après, le festival a continué. On avait installé un prix à l'époque, parce qu'on s'était dit, ah oui, je ne sais pas pourquoi, on avait dit, on va faire un prix un jour. Cette idée a été vite abandonnée. C'était oui, parce que on n'aimait pas tellement, finalement, de voir tout de suite... juger pour donner à celui-là est meilleur, pour ça, pour ci, pour là. Non. Je pense que l'émulation était plus intéressante et la rencontre était plus intéressante. Et on demandait d'ailleurs aux jeunes, en plus de la forme qu'ils nous présentaient dans le cadre de la programmation officielle, de créer une soirée cabaret avec des toutes petites formes qui les mettaient en présence et pour créer justement un moment de convivialité artistique ensemble. Le festival était annuel. Et donc nous l'avons reproduit, et ce projet aussi mettait en place une création européenne avec des artistes des 5 pays. Ça a été très compliqué. Voilà. De là, on a continué et on a essayé de défendre dans nos autorités. Il faut dire que ce festival est possible et a été possible dès le début grâce à la ville qui nous accueille, la ville de Tournai, qui a mis chez nous à disposition une salle au centre-ville qui n'est pas équipée pour ça, mais que nous équipons grâce à un autre partenaire qui s'appelle la province du Hainaut, qui a un département culture et un budget culture et un parc de matériel et une école de régisseurs, ce qui fait que cette aide-là complémentaire à la fois en subvention et en matériel est très importante, et surtout la Maison de la Culture de Tournai, qui est l'opérateur culturel principal de notre ville et qui est normalement un centre régional. Parce que nous sommes situés en Belgique, à 80 km de Bruxelles, pour ceux qui ne nous connaissent pas, à la frontière près de Lille, donc directement près de la France. On a plus avec la Flandre, près de Lille, et puis nous sommes aussi près de la Flandre, parce que j'ai fait de l'absus. Voilà. Donc ce festival existe grâce à ces gros partenaires. Pourquoi la Maison de la Culture? Parce que évidemment c'est l'opérateur culturel, et tout ce qui se passe au niveau culturel a tourné quand même fort, apporté et dynamisé par cette Maison de la Culture, et aussi parce qu'ils ont les salles adéquates, puisque nous avons un lieu qui s'appelle, c'est une maison dans laquelle nous avons installé depuis un musée, une petite salle de travail et d'atelier, mais où on construit des tout petits spectacles. Et la Maison de la Culture a des salles de théâtre normales, voilà, grande salle, petite salle, pour 900 personnes ou 250 personnes. Donc c'était important pour nous d'avoir ce complément-là. Dire aussi que le fait d'avoir eu, parce que j'ai entendu parler du calendrier, dire aussi que le festival a changé deux fois de programmation dans le temps du calendrier de la saison. Puisqu'au début, nous étions au mois de novembre, à la demande de la Maison de la Culture, puisqu'il n'y avait pas de programmation à cette époque-là. Donc, les salles étaient libérées pour pouvoir y faire, y accueillir des spectacles nombreux. Et puis, à un moment donné, ils ont souhaité que nous changions, parce que ça leur donnait des difficultés. Nous sommes passés alors fin septembre, donc du mois de novembre, à la période des vacances pour la Belgique, pour les vacances scolaires. Nous sommes passés à la fin septembre autour de la fête de la communauté française, autour du 27 septembre, parce que ça leur semblait plus intéressant de commencer la saison avec ce festival. Et puis après, ils nous ont encore demandé de rechanger de date pour être plutôt en début octobre. Et maintenant, ils commencent leur saison plutôt avec le festival. Mais tout ça, toujours en négociation avec les différents partenaires, que ce soit la ville, parce qu'il faut qu'on dispose de la salle. Donc, on n'est pas les seuls décideurs pour pouvoir dire ça va se passer à telle période, parce que c'est la meilleure période. Voilà. Autre chose aussi, il est devenu bisannuel. Et ça, c'était à la demande du ministère, puisque nous avons réussi à imposer le festival. Nous étions une compagnie, donc on programmait plus pour faire de la création, de la tournée, ça fonctionnait bien. Mais nous avons après quand même réussi à l'imposer au niveau du ministère pour qu'il devienne récurrent, mais de manière bisannuelle, question de budget toujours, voilà. Et finalement, les opérateurs étaient contents aussi, puisque ça n'était pas quelque chose qui revenait chaque année, parce que c'était assez lourd pour eux. Et quand c'est devenu bisannuel, on s'est dit, tiens, c'est dommage, puisque nous sommes un opérateur, mais nous n'avons pas une grande salle de diffusion pour l'année. Donc, ce qu'on pouvait diffuser, c'était des petits spectacles. On s'était dit, ce serait peut-être bien d'imaginer un événement où on puisse le faire dans notre lieu ou dans des lieux de la ville non adaptés normalement au spectacle. Et on a imaginé de mettre en place un petit festival de petite forme qui pouvait se jouer dehors ou dans des lieux insolites. Et on avait appelé ça Salonge. Voilà. Comme vous le savez, les ministres de la culture changent, les politiques culturelles changent, et à un moment donné, ceux qui étaient en charge d'écrire avec nous le nouveau contrat programme, la nouvelle convention, dans le cahier de charge, ils ont souhaité que nous ne continuions pas à faire deux festivals, mais bien un festival. Donc nous n'avons plus que ce festival Découverte d'Images et Marionnettes tous les deux ans, qui est le festival international et dans lequel, puisque c'est important de le dire aussi, nous avons un cahier de charges précis par rapport au ministère, je dirais, d'avoir 5 spectacles professionnels internationaux, 5 découvertes et 5 ou un peu plus spectacles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet d'être alors un endroit d'administration de ces créations de nos artistes amis. Voilà. Donc tout ça s'est redéfini tout en s'enfermant et en s'ouvrant aussi. Donc voilà, c'est des cadres très précis et c'est pour ça qu'effectivement parfois la programmation dépend de ce cahier de charge précis. Voilà. En ce qui concerne le public, non, j'essaie d'entendre ce que j'avais. Oui. Je pense à ce que j'ai entendu. Évidemment, c'est aussi un peu pour tous les publics, à la fois enfants et adultes. La particularité, c'est que dans notre partie du pays, il n'y a pas encore. Il y a encore plutôt un gros travail à faire en ce qui concerne la programmation pour adultes. Et il n'y a pas de lieu destiné à la marionnette récurrent toute l'année. Une diffusion uniquement sur la marionnette comme ici en France, peut-être dans d'autres pays. Donc c'est difficile d'imposer cette diffusion récurrente. Et c'est difficile aussi alors de fidéliser un public. C'est pour ça que nous, en organisant un petit festival tous les deux ans, il nous semblait que ça pouvait commencer à permettre de fidéliser un certain public. Nous avons travaillé aussi d'arrache-pied à essayer de convaincre la Maison de la Culture d'inscrire des spectacles de marionnettes tout au long de l'année pour qu'il y ait justement cette fidélisation, nouvelle forme au niveau de la marionnette pour un petit peu justement remuer les sens et les visions des gens. Mais c'est très compliqué parce qu'ils ont déjà des chevaux de bataille très forts comme le cirque, la danse, la musique, qui fait que nous ne sommes pas arrivés que très ponctuellement à programmer la marionnette sur les grandes scènes de leur lieu au niveau de la marionnette. Est-ce que ça répond ?
Ah ben.
Je vais rebondir là sur la relation politique à Saguenay et au Québec.
Ben, premièrement, un peu. On va venir sur cahier de charge. Cahier de charge, on a l'obligation de programmer un spectacle canadien hors Québec. Donc un spectacle, oui?
Oui, c'est quand même assez léger.
C'est quand même assez léger. Puis on a quand même un gouvernement municipal aussi qui fait en sorte qu'on doit aussi donner une visibilité aux compagnies de Saguenay parce que, bon, puisqu'il y a le festival de marionnettes qui existe à Saguenay depuis 89, le milieu théâtral de notre petite ville a quand même été beaucoup marqué puis s'est développé grâce au festival, entre autres. Donc, il y a plusieurs compagnies qui ont déjà touché à la marionnette. Il y a quelques compagnies qui sont spécialisées dans les arts de la marionnette, qui sont basées à Saguenay. Et puis, le milieu théâtral est très, très effervescent pour une petite ville, 9 compagnies professionnelles, ce qui est très particulier au Québec. Sinon, le contexte politique, je te laisse en parler un peu plus.
Ben, le contexte politique, non, dans le sens qu'on est, quand même assez libre. Les cahiers de charges sont surtout, pour diversifier l'événement, dans ce sens que, oui, bien sûr, la programmation comme telle, mais également, on nous demande des activités de développement public, de médiation. Qu'est-ce qu'on nous demande d'autre?
Ouais, c'est vraiment axé beaucoup sur la médiation.
Oui, à Ottawa, à Québec, c'est autre chose. Bon, mais c'est, de toute façon, c'est des choses qu'on faisait déjà. On avait un intérêt. Pour nous, c'est pas une charge supplémentaire. Non, on est quand même assez libre au niveau des au niveau du contenu. Non, on n'a pas de pression à ce niveau-là. Non, vraiment pas.
Ben, nous, une fois que c'est écrit, c'est plus une pression.
Oui, d'accord.
Ah ben, moi, alors moi, j'ai pas de cahier des charges, c'est très bien. Je suis extrêmement libre dans mes choix, c'est vrai. C'est moi qui choisis de faire tous les âges de public. Enfin, moi, j'ai vraiment pas de cahier des charges. J'ai aucune obligation dans la programmation. Donc ça, c'est très agréable. C'est vrai que voilà, j'ai pas d'obligation à travailler avec les compagnies du territoire, même si, disons que j'ai des recommandations, mais c'est pas un cahier des charges. Voilà. Évidemment, les partenaires. Alors nous, nos partenaires sont évidemment la ville de Dives-sur-Mer, le département du Calvados, la région Basse-Normandie, qui est notre principal financeur sur le Centre régional des arts de la marionnette, et la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, donc le représentant du ministère de la Culture en région Basse-Normandie. Voilà. Après, nous, on a un organe qui s'appelle l'Odia Normandie aussi, qui est une agence régionale qui aide les compagnies normandes à jouer, soit à sortir du territoire, ou les programmateurs normands à programmer les compagnies de leur territoire. Donc c'est vrai que bon, nous, moi je fais quand même un travail d'accompagnement. Comme on a le CREAM à l'année, avec ce lieu de résidence et de création, évidemment on fait un travail d'accompagnement de compagnie. Et notamment je suis quand même assez vigilante à ce qui se crée sur le territoire normand. Donc évidemment s'il y a de beaux artistes et de beaux spectacles en projet sur notre territoire, ils vont trouver une place sur notre festival. Et voilà. Et puis avec l'aide de l'Odia, ça permet ça aussi. Moi, je n'ai pas précisé que nous, c'est un festival annuel. Donc, c'est ça aussi, quand je disais que c'est un des plus anciens festivals en France, Dives-sur-Mer, c'est surtout un de ceux qui a le plus d'éditions à son actif, quand même, parce que donc on a fêté la 30e cet été. Et nous, il a lieu en juillet. Donc historiquement, il démarrait toujours au 14 juillet, pendant une semaine, 15 jours. Moi, quand je suis arrivée, j'ai décidé de basculer les dates, d'avancer les dates, de mettre les dates du 10 au 14 juillet. Alors, c'est vraiment la mairie de Dives. Alors voilà, une de mes contraintes, c'est que le maire de Dives-sur-Mer souhaite réellement que le 14 juillet reste dans les dates du festival. C'est quand même l'arrivée des estivants. Il y avait un petit côté comme ça au départ, accueil des touristes sur la côte. Donc nous, on est sur la côte normande. Donc il y avait un côté vraiment animation pour les touristes. Étant donné que moi je mets en place énormément de choses aussi, beaucoup d'actions culturelles à l'année, on essaye de travailler avec les gens de ce territoire, je trouvais dommage que si les touristes arrivent, c'est-à-dire que les gens de notre territoire, eux, partent en vacances. Donc je trouvais dommage que ce festival ne concerne pas un peu plus les gens avec qui on faisait ce travail de fond tout au long de l'année, notamment avec les écoles et les jeunes, etc. Donc j'ai choisi d'avancer les dates du 10 au 14 juillet maintenant, alors que ça démarrait au 14 juillet, pour une autre raison aussi, qui est qu'il y a le Festival d'Avignon en France, grand festival de théâtre, et que beaucoup de compagnies vont jouer à Avignon. Donc ça, parfois, ça m'empêchait de programmer des projets que j'avais envie de programmer. Et puis aussi parce que ben, c'est important pour nous d'avoir des programmateurs sur le festival, évidemment, pour les projets qu'on présente et qu'on soutient, et que beaucoup étaient à Avignon. Et donc le fait d'avancer les dates nous permet d'avoir quand même quelques programmateurs qui viennent avant leur départ à Avignon, qui viennent à Dives-sur-Mer, quoi, voir des spectacles. Voilà, donc pour ce qui est des dates, en tout cas, même si cette année ça tombe très très mal, et je suis vraiment. On va être obligé de replacer le festival du 14 au 17 juillet cette année. C'est exceptionnel, c'est parce que voilà, il n'y a pas de week-end sur le festival. Je trouve important qu'il y ait un week-end. Il y a vraiment énormément de paramètres, hein. C'est intéressant la question de ce matin. Il y a vraiment énormément de paramètres qui rentrent en compte quand même dans l'organisation d'un festival, et il se trouve que là, le 10 juillet cette année est un dimanche, donc ça faisait le festival du dimanche au jeudi, et qu'on a envie qu'il y ait un week-end dessus. Nous, on n'a pas de salle équipée, on n'a pas de théâtre à Dives-sur-Mer. Donc, il y a un énorme travail technique qui est fait par les services municipaux et ensuite par notre équipe de techniciens intermittents pour l'équipement des salles. Donc, on a vraiment des salles de tout format. Donc, ça va d'une capacité d'accueil de 80 jusqu'à 180, 200, on va dire, à Dives-sur-Mer. Donc, il y a aussi, on utilise beaucoup, notre cœur de festival, c'est l'école primaire de Dives-sur-Mer. Donc, on est obligé d'attendre aussi les vacances scolaires pour commencer cette installation technique. Et comme les vacances sont repoussées cette année, il se trouve que c'est le 5 juillet, donc ça nous oblige aussi à décaler sur la deuxième semaine et non pas sur le premier week-end de juillet. Voilà. Nous, on a quand même d'énormes contraintes à ce niveau-là. Ouais, sur la technique des salles. Donc, on a des salles qui n'ont pas une grosse hauteur sous plafond. C'est mon grand problème, ça, dans le choix des projets accueillis. Voilà. Moi, j'ai pas payé des charges sur la ligne artistique ou l'obligation d'accueillir telle ou telle compagnie de tel territoire, mais j'ai quand même de grosses contraintes techniques avec les lieux que j'ai à ma disposition.
Moi, je voudrais rebondir sur ça, justement, c'est que par rapport au début du festival, où techniquement parlant, on accueillait beaucoup plus de spectacles et on travaillait jour et nuit, la loi du travail a évolué, les spectacles se sont techniquement renforcés, et donc les durées de montage sont plus longues, et voilà, donc toute cette organisation-là technique, en fonction justement du travail des métiers du spectacle, font aussi, nous donnent aussi certaines contraintes dans les choix, on doit jongler, etc.
Moi, je veux bien aussi expliquer que, en fait, ce festival à Dives-sur-Mer, pendant 25 ans, 26 ans, il a présenté des spectacles et des expositions. Très bien, présenter des spectacles et des expositions. Alors moi, dans mes choix de programmation, puisqu'on parle de ça ce matin, moi j'ai choisi de mettre une partie du budget sur l'organisation de la rencontre entre les gens. C'est-à-dire qu'il me tenait vraiment à cœur, aussi pour cette histoire de date, il me tenait vraiment à cœur d'organiser. Pour moi, un festival, c'est un temps fort. J'ai préféré, avant c'était un festival sur la longueur, comme ça, où il y avait 2-3 spectacles présentés par jour et des expositions. Moi j'ai vraiment choisi de rassembler ce festival en un temps fort de 5 jours où il se passe des choses du matin au soir. J'ai mon téléphone qui sonne, catastrophe. Et d'en faire un événement un peu festif, justement. Pour moi, le festival, il y a l'aspect rencontre. C'est un festival à taille humaine, de par sa taille, mais il me semblait vraiment très important que le public puisse rencontrer les artistes en dehors d'assister à leurs œuvres. Ça n'existait vraiment pas avant à Dives-sur-Mer. Donc déjà, on a choisi de créer un lieu convivial. Je suis vraiment navrée. Bon, je trouve pas mon téléphone. On a choisi de créer un lieu. Donc, si vous voulez, nous, en termes de budget, moi, j'ai vraiment choisi de mettre du budget sur ça. J'ai embauché une chef déco sur la déco d'un lieu qui puisse rassembler les gens. On organise des ateliers enfants-parents aussi. Dans mes choix budgétaires, en tout cas, je trouvais important qu'on puisse permettre la rencontre aussi. Il y a des temps de rencontre entre les artistes et le public qui n'existaient pas auparavant. Donc voilà, c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Avant, c'est vrai qu'on entrait dans Dives-sur-Mer, on ne savait pas forcément qu'il y avait un festival qui se passait. Maintenant, il y a quand même ce lieu, ce lieu d'accueil, avec la chef déco qui travaille avec nous. Elle a fait quand même, elle fait beaucoup pour donner de la visibilité au festival dans la ville aussi. Donc voilà, ça c'est des choix budgétaires. Ou par exemple, j'ai fait le choix d'avoir sur le festival un espèce de projet parallèle qu'on a appelé TV Récidive, où j'ai demandé à un vidéaste de faire un projet. Alors c'est né il y a 2 ans ce projet-là. J'ai demandé à une compagnie, si vous voulez bien former de jeunes comédiens avec qui on travaille. Il y a plusieurs formations professionnelles de comédiens sur Caen. Il y a le Conservatoire d'Art Dramatique et puis il y a une formation professionnelle qui s'appelle l'ACTEA. Et donc, comme j'avais rencontré ces jeunes, je suis allée intervenir auprès d'eux. J'ai parlé de marionnettes dans la mise en scène contemporaine. Je trouvais intéressant que ces jeunes participent à notre festival. Donc, j'ai demandé à une compagnie qui venait jouer sur le festival, les Drôlatiques Industries, si vous voulez pas former ces jeunes à la manipulation de Muppets pendant une journée, de 3-4 jeunes. Et puis par ailleurs, j'ai demandé à un vidéaste de suivre ces jeunes avec un projet d'interview du public, des artistes, quelque chose qui laisse une trace filmée du festival et qui soit présenté sous la forme d'une fausse émission de télé, d'un faux journal télé, un faux JT en fin de festival. Ça coûte quand même de l'argent en fait. En plus, le projet est en train de se transformer un petit peu la deuxième année là. Mais j'ai fait ce choix-là et je trouve que donc forcément ça prend du budget sur l'artistique. Par ailleurs, c'est peut-être un spectacle en moins pour faire ce projet-là. Mais je trouve que c'est très important, voilà, d'avoir cette trace filmée en fin de festival. Et puis c'est quand même des jeunes qui manipulent des marionnettes pendant toute la durée du festival et qui sont visibles dans la ville, qui donnent aussi une visibilité au festival, qui vont interviewer les gens dans la rue. Voilà, on a un gros marché à Dives-sur-Mer le samedi matin, donc il y a toujours des milliers de personnes qui viennent à ce marché dans la ville, et c'est assez sympa d'avoir ces marionnettes qui vont interviewer les gens sur le marché et qui, mine de rien, font aussi de la communication pour nous. Il y a deux versants de ce projet-là, et c'est un choix que j'ai fait. C'est vrai que je pense que ça enlève un spectacle sur le festival, mais je trouve important parce qu'en plus, à la fin du festival, on a ces traces vidéo, ce témoignage de ce qui s'est passé pendant 5 jours chaque année. Mais là, c'est un petit peu en train de se transformer parce que l'Hydrolatique Industrie, la première année, je les avais embauchés vraiment une journée pour former ces jeunes à la manipulation de Muppets. Et puis, on les a repayés à la fin pour cette projection, puisqu'ils manipulaient une marionnette qui était le présentateur de cette émission télé qui présentait les sujets qui avaient été tournés pendant 5 jours. Et là, il se trouve que cette année, j'ai demandé à la compagnie La Soupe de faire cet exercice. Et en fait, Eric Dominicon a fait tout le projet avec les jeunes. Il est resté toute la semaine. Et il y a un autre marionnettiste professionnel qui s'est greffé bénévolement au projet parce qu'il avait envie de le faire, c'est Cyril Bourgois. Donc voilà. Finalement, maintenant, il y a des artistes qui ont envie de faire ce projet-là d'émission télé, alors qu'à la base, c'était vraiment destiné à des jeunes comédiens bénévoles. Donc voilà, dans l'idée des choix de programmation, moi, c'est vrai que j'ai choisi d'amputer un petit peu la part artistique pour faire ce projet-là, par exemple, mais que je trouve important, en fait, dans l'ambiance du festival aussi.
Nous, on a fait le choix depuis le début aussi d'organiser pendant la durée du festival, un peu avant, enfin, à cheval, une formation. En demandant à des artistes qui étaient invités dans la programmation de prodiguer une semaine de formation pour pouvoir justement partager sa pratique avec des gens. Et ici, cette année, ce sera Ludwig Quad qui vient jouer un spectacle, qui vient jouer le Reactor. Donc c'est Ludwig Quad qui vient travailler sur la manipulation. Mais dire aussi que, par exemple, par rapport à ce spectacle-là, on a mis en place un travail de médiation avec les écoles qui se poursuivra au-delà du festival, puisque il y a des étudiants qui vont venir de différents niveaux d'études, que ce soit une école de journalisme ou de communication ou des lycéens. Ils vont venir assister au spectacle. Ils sont déjà préparés par leurs enseignants et éducateurs. Et nous prolongerons cette rencontre avec Ulrike, le spectacle et leur travail, soit en écriture, soit en reportage, soit en réflexion philosophique, au mois de mars, sur une journée thématique où nous rassemblerons tous ces jeunes spectateurs de 15 à 24 ans autour de cette question de l'art et l'engagement. Voilà. Et donc, on essaye de créer aussi des moments plus réflexifs, en tout cas, et qui perdure dans le temps par rapport à juste la consommation d'un spectacle. Voilà. Et nous essayons aussi d'organiser des rencontres thématiques. Cette année-ci, il y en aura une autour de la programmation du spectacle de marionnettes pour les organisateurs en Belgique. Et une, comme tu disais tout à l'heure, quand tu m'as vu arriver, sur les arts numériques, parce que c'est une question qui nous interpelle, et que quand on nous avait suggéré de ne plus avoir un festival de petite forme, on s'est dit, mais ça ne peut pas, qu'on ne trouve pas quelque chose quand même pour dynamiser. Et on s'est inscrit l'année passée dans la quinzaine du numérique, qui était un événement annuel proposé par la ministre, pour pouvoir rentrer, s'immiscer dans cette question-là de la marionnette et du numérique, puisque on voit de plus en plus dans les spectacles. On a été assez convaincus de l'opportunité de défendre un petit peu et d'essayer de se questionner là-dessus, parce qu'on a pu rencontrer des opérateurs professionnels dans notre région, à Mons notamment, l'université de Mons, et un centre de création numérique, en sculpture, qui nous ont vraiment, quand on les a rencontrés, ont trouvé aussi cette opportunité ils se sont dit, là il y a une porte grande ouverte à développer la marionnette, le numérique, le double, enfin l'image de soi. Et donc cette année-ci, nous prenons autour du numérique avec ces opérateurs-là aussi, pour continuer petit à petit, et nous espérons qu'on mettra en place un projet européen autour de ça. Voilà.
dans une programmation où il y a une espèce d'équilibre écologique de tous les spectacles et tous les événements qu'on va programmer dans une édition. Donc, c'est sûr qu'on a toujours ça en tête aussi. On essaie d'avoir des spectacles ou au moins un spectacle d'un maître reconnu et laisser une place aussi à la relève, aux nouvelles, aux compagnies émergentes. On donne aussi toujours une formation dédiée aux professionnels du Québec. Donc, justement, on va chercher on va profiter pour présenter un spectacle donc du formateur. Donc, souvent, ça va être un spectacle qui va provenir de l'étranger, donc d'un maître reconnu qui va pouvoir donner une formation pour les professionnels aussi. Et on a aussi une programmation d'exposition. On avait 5 expositions cette année pendant l'édition. Donc aussi, ça va donner peut-être une espèce de ligne à l'ensemble de programmation. Le fait qu'on soit 2 aussi, il faut dire qu'on ne programme pas uniquement des coups de cœur non plus. Hein. Dans l'équilibre écologique, ce n'est pas uniquement des spectacles qu'on va nécessairement tous beaucoup aimer. Donc, on a cette ouverture-là quand on va voir des spectacles, quand on fait du repérage. On ne veut pas juste avoir des coups de cœur. Donc, il y a certains spectacles qui vont plus être des coups de cœur de Benoît, d'autres qui vont être plus des coups de cœur de moi. Puis des fois, c'est même des spectacles qu'on c'est pas nécessairement des coups de cœur ni d'un ni de l'autre, mais qu'on trouve que le spectacle est pertinent, va s'inscrire d'une certaine façon, va venir compléter un pan de la programmation, va venir représenter un pan des arts de la marionnette qu'on n'aurait pas autrement. Donc, ce spectacle-là s'inscrit. Et justement, le fait que ce soit une dynamique de festival, le festival, c'est une entité en tant que telle, c'est un objet, c'est différent d'une programmation annuelle. Donc, c'est un temps fort où un spectateur va pouvoir voir plusieurs choses et toutes les choses qu'il va voir vont se compléter entre elles. Donc, c'est tous ces maillages-là qui se font dans tous les éléments de la programmation. On pense à toutes ces choses-là. Donc, parfois, il y a peut-être certains artistes qui peuvent se demander pourquoi que vous ne me programmez pas. C'est pas qu'on ne programme pas, c'est que là, on a un équilibre écologique qui, j'appelle ça comme ça pour l'instant, mais qui fait en sorte que là, on ne trouve pas la place, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas, ou parfois même on a des coups de cœur qu'on ne va pas programmer non plus parce qu'on ne réussit pas à l'insérer pour cette édition-ci. On se dit toujours ça. Hein.
On travaille aussi selon 2 axes. La programmation nationale et la programmation internationale. La programmation internationale, nationale, on essaie de l'imaginer comme une vitrine pour justement les programmateurs étrangers, tout ça, de ce qui se fait dans l'ici maintenant, non pas seulement les compagnies vedettes du Québec, au contraire, les compagnies émergentes. Donc, on essaie que le festival soit une vitrine pour les compagnies marionnettes, les compagnies marionnettes du Québec. Et à l'inverse, notre axe pour nos invitations à l'international, là, à ce moment-là, on a plus en tête, encore là, le milieu de la marionnette du Québec, dans ce sens, de leur donner la chance de voir des choses, des pratiques, des esthétiques qu'on n'a pas au Québec. Donc, c'est justement, c'est d'enrichir la pratique du Québec. C'est général ce que je dis là, mais effectivement, c'est 2 axes pour nous différents dans notre programme.
Moi, je voudrais ajouter aussi quelque chose, c'est que nous n'avons pas forcément une programmation continuelle pendant l'année de marionnettes, mais on a développé un programme de résidence et on accueille des compagnies en résidence et je voulais ajouter ça parce qu'effectivement des compagnies qu'on a reçues en résidence pendant les saisons précédentes ou cette saison-ci ont abouti au spectacle et puis finalement qui se retrouvent dans la programmation, dans le suivi. On a par exemple les Inuits qui vont jouer samedi ici et puis une autre compagnie qui est plus en jeune public. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a pu bénir cette année-ci, on s'est accroché à Mons 2015 et dans le cadre d'un projet qui se fait dans une ville à côté, et on a pu coordonner avec un budget de Mons 2015 3 compagnies pour réaliser des petites formes pour le moment marionnette géant qui aura lieu au début octobre. Et ces 3 petites formes ont été en résidence dans 3 lieux, parce qu'en plus, je voulais ajouter que, comme nous sommes près de la frontière, on essaie aussi de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Et près de chez nous, il y a à Lille la Maison Folie de Moulin, qui a aussi une programmation de petites et grandes formes, ça dépend, je ne veux pas parler pour eux, mais qui dynamise aussi la marionnette, c'est à 25 km de chez nous, et puis à Valenciennes. Donc on essaye aussi de se rencontrer pour voir comment on peut travailler ensemble, et le projet de Mons 2015 a été établi aussi en coproduction avec la Maison de Folie Moulin. Donc des résidences à Mons, à Tournai, à Lille, qui vont jouer à Mons, à Tournai, Lille. Voilà. Donc pour essayer justement d'alimenter les différentes formes de spectacles possibles et les artistes aussi, multiplier peut-être la venue d'artistes dans le festival avec déjà des prolongements ailleurs. Voilà.
Moi, je me situe vraiment... Enfin, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur l'équilibre écologique. Moi, voilà, c'est vraiment ça, la programmation. Moi, j'adore quand on commence à mettre les choses, on sait que tel spectacle vient, etc. C'est un vrai puzzle, quoi, comme ça, qui se constitue au fur et à mesure. On met les pièces et puis ça rentre. Et moi, c'est vraiment ça aussi, comme tu dis. J'ai parfois des coups de cœur, des choses qui ne vont pas venir parce que, ben, voilà, je disais que je n'avais pas de cahier des charges, mais je me contrains quand même à essayer de trouver un équilibre aussi entre les différentes propositions. Les âges, même si on a une très très forte demande pour le jeune public et que les spectacles jeunes publics sont toujours archi complets, il y a beaucoup de gens frustrés qui ne trouvent pas de place. Il y a peut-être, je pourrais proposer plus de jeunes publics, mais j'ai vraiment envie de conserver cet équilibre entre jeunes publics et adultes parce que ça m'intéresse, parce qu'il y a de très belles propositions pour adultes et puis que c'est important de les montrer ces spectacles-là aussi. Et puis je me dis qu'on va finir par créer l'habitude et qu'on aura bientôt autant de public qui va s'arracher les places des spectacles pour adultes que pour enfants. Mais voilà, je comprends très bien ce que tu dis là sur l'équilibre écologique. C'est vraiment ça, je crois, de faire une programmation sur un festival comme ça, de rentrer. Et puis, nous, on a ce que tu dis, toi, puisqu'on accueille des artistes en résidence, évidemment, l'engagement, c'est qu'on préachète tous les spectacles des artistes qui passent en résidence chez nous. Donc, évidemment, il y a une grande partie de création dans le festival que j'organise aussi. Cette année, sur 20 spectacles, on avait quand même 8 créations. Alors, pas que des gens passés en résidence, parce que je fais aussi des préachats par ailleurs. J'essaye de soutenir quand même des projets qui vont voir le jour. Après, on ne peut pas faire que ça, on ne peut pas se baser que là-dessus. Il faut avoir certaines certitudes. On est obligé, on ne peut pas faire que des préachats. On dit qu'on prend des risques en faisant des préachats. Bon, j'aime pas trop le terme de risque, parce qu'on ne risque pas non plus... faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on ait des certitudes, comme vous le dites aussi, avoir un maître ou voilà, un spectacle, on sait qu'il va... Alors nous, on fait aussi une petite formation professionnelle en amont et au tout début du festival. On fait un stage de 2 jours avec un marionnettiste qui présente son spectacle sur le festival. Et les artistes, donc comédiens et marionnettistes qui participent à ce stage, restent ensuite en mode laboratoire, tous les huit, pendant 3 jours, à travailler sur ce qu'ils ont vu pendant le stage avec cet intervenant. Et après, il y a une restitution qui est faite sur le festival de ce travail de recherche, de laboratoire, qui est préparé avec l'intervenant le dernier jour. Donc j'aime bien aussi avoir ça, ce temps-là sur le festival, d'avoir des gens qui sont en recherche pendant qu'on présente des œuvres abouties. Il y a aussi des gens qui travaillent à côté, qui sont en recherche, qui présentent le résultat de leur recherche. Et je trouve aussi pour le public, donc évidemment, on invite le public à assister à ces restitutions de labo. C'est aussi un petit... temps intéressant pour le public, une espèce de respiration comme ça sur le festival. Il n'y a pas d'attente, on est toujours très surpris et vraiment à chaque fois c'est incroyable ce que les gens arrivent à présenter après juste 5 jours, des gens qui ne se connaissaient pas la semaine précédente et qui se retrouvent à travailler ensemble pendant une petite semaine, et c'est toujours assez miraculeux. J'aime beaucoup ce temps-là aussi de présentation, de restitution de labo, parce que c'est une espèce de respiration comme ça dans le festival, c'est marrant. On n'a pas d'attente sur ce temps-là, on sait que c'est expérimental. Et en général, justement, il se passe des choses intéressantes aussi, quoi, dans ce temps-là.
Il y a un équilibre aussi entre les divers intervenants du territoire, parce qu'on n'est pas l'unique festival. Je disais qu'on était là, le premier, mais il y a d'autres nouveaux festivals qui se sont installés au Québec. Il y a le Festival Castelier qui existe depuis maintenant 10 ans. Il y a 2 festivals aussi à Trois-Rivières, Festival de courte forme, Festival de création en chantier. Donc, on a un équilibre aussi sur l'ensemble du territoire national. Il faut aussi penser à ça. Donc, on ne travaille pas en vase clos dans notre petite ville à Saguenay. On pense justement à tout le milieu professionnel et des artistes de l'ensemble du Québec qui vont se déplacer pour venir voir les spectacles. Donc, s'il y a déjà des artistes qui ont été, qui ont donné, par exemple, un maître qui aurait donné déjà une formation dans un autre festival, dans le Festival Castelier, on va peut-être pas nécessairement offrir la même formation parce qu'il y a une complémentarité qu'on doit faire. Je ne sais pas comment vous fonctionnez sur votre territoire ici, mais c'est un peu la façon qu'on essaie de travailler. Donc, en réseautage aussi à l'international, donc on va vouloir développer des projets de collaboration avec d'autres festivals à l'étranger, soit par des projets de coproduction de spectacles ou des réflexions de projets, de nouveaux genres de circulation de spectateurs ou de formation ou de rencontres entre les artistes. En tout cas, on est ouvert à ce genre de collaboration-là. Je pense que vraiment c'est le réseautage à l'international et au national peut permettre justement une meilleure circulation, un développement des arts de la marionnette pour le bienfait des spectateurs et des artistes.
Ouais, bah, alors, moi, il y a un théâtre à 30 km de Dives-sur-Mer à If, dans l'agglomération de Caen, qui présente beaucoup de théâtre de marionnettes, qui défend aussi les arts de la marionnette et des formes animées. Donc, on essaye aussi de travailler conjointement. Voilà. Alors, forcément, dans nos programmations respectives, parfois, il y a des choses qui se retrouvent, mais on essaye voilà, de présenter des choses différentes quand même. Mmh. On travaille ensemble, malgré tout, aussi à réfléchir à la programmation. Aux artistes qui viennent. Il ne faut pas qu'on ait la même programmation, ce serait dommage sur ce territoire-là. Il y a tellement de propositions dans les arts de la marionnette, ce serait dommage de présenter les mêmes choses. Alors, après, on n'a pas forcément exactement le même public, mais comme nous, on a vraiment développé la communication du festival, maintenant, c'est vrai que le public de ce théâtre connaît notre festival et voilà, ils ont l'information quand même, donc ils peuvent potentiellement faire partie de notre public aussi. Donc, voilà, évidemment, on essaie de proposer des choses différentes. Mais c'est parfois difficile parce qu'on a une ligne artistique assez proche, on s'entend très bien. Même parfois, on se chamaille un peu sur...
C'est bien.
Mais bon, voilà, on essaie de travailler intelligemment. Quoi. Aussi à réfléchir à si ça fait plus sens, puisque c'est un théâtre qui a une saison annuelle, est-ce que ça fait plus sens de proposer dans une saison ou dans un festival ? Et en tout cas, les discussions que j'ai avec cette collègue qui dirige ce théâtre... On a le sentiment que sur un festival, on peut peut-être être plus audacieux parfois. Mm-hmm. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, c'est bien d'avoir une valeur sûre ou deux dans un festival. Et puis derrière, on peut quand même se permettre de proposer des choses plus, peut-être plus compliquées en réception ou voilà, de faire confiance à des jeunes. Peut-être que c'est plus simple que dans une saison. Voilà, exactement. Puisque les gens peuvent voir plusieurs propositions dans la journée ou sur la semaine, enfin sur les quelques jours, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut se permettre un peu d'audace.
Il y a certains spectacles qu'on avait repérés, mais justement qu'on disait, mais c'est pas un spectacle pour un festival. Puis finalement, dans la saison régulière du Théâtre Alvray, qu'on a pu présenter, offrir en tout cas une visibilité à la compagnie dans la saison, mais on sentait que c'était pas un spectacle qui pouvait cadrer dans notre dynamique de festival. Donc heureusement, il y a une saison qui nous permet de pouvoir compléter.
Y a-t-il des... Parce qu'il y a plusieurs responsables de festivals ici, notamment Jean, de Marionettissimo.
Il est passé dans la rue. Là, de...
je ne vais pas faire le portrait de Marionettissimo comme vous l'avez fait. Pour moi, évidemment, il n'y a pas de miracle. Je reconnais beaucoup nos préoccupations, nos démarches dans ce que vous avez dit. La chose qui m'a le plus interpellé, peut-être dans ce qui a été dit, c'est par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est la notion de payer les charges. Hein. La France, je ne sais pas si elle est là. Tu expliquais que vous aviez quand même un cahier des charges finalement assez très contraignant finalement. C'est des politiques selon les pays, enfin je ne sais pas, où c'est vrai que. On est comme finalement une initiative privée, on n'est pas un centre dramatique national, on n'est pas un lieu labellisé. Et donc, en tout cas en France, enfin, je pense que ça serait malvenu que les collectivités, même alors qu'elles nous financent, nous aient un niveau d'exigence. Attention, je ne dis pas mes amis de toi, enfin, c'est évidemment. Mais donc c'est. Puis moi, je je sais aussi que là, au Québec, effectivement, ben, dans la mesure où vous êtes financé par différents niveaux, au niveau du Canada, au niveau du Québec, oui. Ben, voilà, mais comme vous l'avez dit, vos impôts, une compagnie au niveau du Canada, ça passe pas trop lourd, bon, ça peut passer. Mais c'est un truc qui m'a interpellé, parce que bon, nous, par exemple, au niveau de la région, on nous demande, mais plutôt au niveau des bilans, mais bon, c'est plutôt du bilan statistique en réalité, on nous demande alors combien vous avez programmé de compagnies de la région. Bon, ben oui, ok, il faut en programmer. Et de toute façon, on en a envie. Bon, vous l'avez expliqué, bien sûr, on est sur un territoire, on se fait la création sur notre territoire. Mais effectivement, on ne nous impose pas de programmer tant de compagnies de la région, tant de compagnies du pays, tant de compagnies de l'étranger. Bon, après, c'est nous-mêmes, et ça, vous les uns et les autres bien expliqué aussi, on ne se distingue pas. C'est nous-mêmes qui nous donnons aussi ce type de contraintes. Pour réaliser cet équilibre écologique. Comme l'a très bien dit Anne, on se débat pour faire une programmation au milieu de tonnes de contraintes multiples. Alors zone publique, adulte, petite forme, grande forme, internationale, régionale, nationale. Contraintes techniques, ça passe là, ça passe où, Et puis, on arrive à la fin, comme ça a été évoqué au début, on arrive à la fin à voir émerger a posteriori une thématique qui nous sert à répondre aux questions des journalistes.
Tout à fait,
c'est vrai,
c'est tout à fait.
Parce que c'est ça, parce que franchement, s'il n'y a pas une thématique, oh là là, mais. Ils savent pas quoi dire, en fait, en réalité. Bon, ben, on en a déjà parlé l'année dernière au nom du festival Marionettissimo. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La question essentielle, hein, d'un journaliste, c'est quoi de neuf? Quoi de neuf cette année?
Tout?
C'est pas obligé qu'il y ait quelque chose de neuf. Alors, nous, on met toujours en avant une thématique, mais franchement, elle émerge.
Oui.
Voilà, spectacle complètement un petit film producteur a posteriori. Après par rapport à tout ce que vous avez dit, la notion de la période. Alors moi j'ajouterais un témoignage qui nous est propre qui vient s'ajouter au vôtre sur la période. Donc nous on est en novembre et le Conseil régional de Midi-Pyrénées communique énormément sur la notion de Midi-Pyrénées terre de festival. Il y a 250 festivals en Midi-Pyrénées qui sont subventionnés par la région. Il existe donc un catalogue qui est publié au mois de mai. La communication qui est faite autour de ça est avant tout les festivals en tant qu'outil de promotion touristique. Et donc, effectivement, il y a bien 75% des festivals qui sont en été. Voilà. Alors, les festivals, quand même, je ne parle pas des festivals des adorateurs de l'oignon, etc., qui sont également en été, c'est encore plus. Bon, ça s'ajoute. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, nous. Déjà, ça nous agace un peu, cette communication-là. Ça va, on est dedans, on est dans le catalogue. On revendique, et là, vous avez posé cette question-là par rapport à la période, nous, on revendique, justement, qu'on est en novembre, et que donc, on n'est pas dans la démarche vis-à-vis de touristes, on est bien en lien aussi avec l'action culturelle qu'on mène chaque année, etc., donc avec la population quand elle est là, sur place. Que donc on ne sera jamais un festival où il y a des myriades de festivaliers qui publics, des lambdas qui vont venir courir. Il y en a toujours un petit peu, mais quelques-uns. Donc c'est quand même important aussi d'attirer aussi l'attention des élus. Nous on essaye, c'est pas forcément le sujet principal, mais quand même, sur le fait que les festivals comme les nôtres. L'enjeu n'est pas seulement celui de le produit d'appel touristique. Parce qu'en France, en tout cas, moi je trouve que quand même, ça prend beaucoup, et dans toutes les, partout en France, ça prend beaucoup cette, ce chemin-là. Enfin, les élus le voient comme ça, quoi. Bon, même que peut-être que si les arbres de la rue, enfin, il y a sûrement beaucoup d'autres raisons, ont connu telle éclosion, c'était peut-être aussi un peu pour des raisons un peu de ce type aussi, quoi. Bon, voilà, voilà un peu mes réactions. Bon, on va prendre ce que vous avez dit.
Merci. D'autres personnes?
Je veux faire un peu de rencontre internationale de Tadeu Papier. Alors, ça a changé, c'est un festival, c'est toujours un festival biennal, c'est un festival consacré au théâtre de papier. Et c'est, je me trouve vraiment doit tout le monde, excusez-moi, mais c'est pas du tout la question qui veut. Non. Donc, c'était. Non. Dans la politesse ou ce genre de donc je co-dirige le festival en fait avec Alain Lecuc. Notre festival avait lieu sur 20 communes avant avec 20 secteurs. Et là on avait comme partenaire 4 partenaires qui étaient la PAC, le ministère de la Culture, la région, le département et le pays d'Épernay. Et c'était donc dans cette région de Champagne-Ardenne, mais dans la Marne. Alors, quand la crise est arrivée, le pays d'Épernay, qui était notre partenaire local, a décidé de supprimer malheureusement le budget culture en nous disant que ça nous intéresse beaucoup, notre festival allait continuer et on vous soutient moralement. Donc, ça n'était plus possible de continuer. Alors, on a changé de formule parce que la DRAC, quand même, a dit qu'on vous soutient, on va mettre le budget qu'on vous donne pour le festival sur la convention de la compagnie. Vous pouvez continuer dans le cadre du festival de Charleville, qui était d'accord pour faire une collaboration avec le festival. Donc, l'hôtel de ville de Mézières, ça fait 2 fois depuis 2013 qu'on a cette rencontre internationale de Tadeu Papier. Vraiment réduit, comme une vingtaine de spectacles, maintenant on fait 8 spectacles. Mais bon, on n'a évidemment pas du tout la même liberté, on ne peut pas faire le même choix parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et en même temps, ce qui a changé pour nous, c'est que bon, c'est le festival mondial, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Surtout au niveau de. Bon, le public, il y en avait, il y en a peut-être plus ici, et surtout au niveau de programmateurs, évidemment. Tu sais bien d'ailleurs, parce que par exemple, on ne viendrait pas évidemment au pays d'Épernay pour voir quelques spectacles au courant de 5 jours. Et là, au festival de Charleville, quand tout le monde est là, c'est beaucoup plus facile. Donc on se déplace, on va voir aussi des spectacles de Tadeu Papier. Et pour nous, c'est vraiment comme idée, c'est très important. On l'appelle les rencontres internationales de Tadeu Papier, c'est rencontres entre les artistes et avec d'autres personnes. Donc ça continue dans cette petite forme. Mais voilà, c'est pas la même chose, donc il y a des points positifs et des points négatifs. Donc en partenaire, aujourd'hui, on a la DRAC et on collabore avec le Festival de Charleville.
Et c'est vous qui programmez oui. les spectacles?
Oui, nous programmons, ça veut dire nous programmons.
Et qui finançons?
Nous finançons, nous achetons en fait les spectacles. Par contre, le festival loge et nourrit, le festival mondial loge et nourrit. Et alors, oui, c'est comme ça. Ça dépend des projets, mais bon, c'est nous qui prenons en charge, donc c'est la subvention qu'on a de la DRAC qui nous permet, qui est vraiment basée sur ça. Ouais.
Et en termes de technique, l'installation est faite par le festival aussi, du lieu dans lequel vous êtes.
Oui, oui. Mm-hmm. Et puis du coup, puisque c'est dans un lieu, on ne peut pas avoir des spectacles très grands. Mm-hmm. Parce que c'est l'hôtel de ville de Mézières, il y a une belle scène, mais quand le spectacle dépasse une certaine dimension, mm-hmm. après on n'en peut pas. Et dans ce cas-là, alors, ça change parce qu'on a eu des spectacles comme ça, et, rarement, mais bon, ça veut dire que ça change de notre. Ça sort de notre programmation. D'accord. Si ça intéresse la direction du festival de Charleville-Mézières, dans ce cas-là, un spectacle de Tadeu Papier peut être acheté par le festival de Charleville.
Tout va bien?
Oui.
Personne n'a de questions, c'est bien. Alors c'est bien.
Étonnant.
Non, c'est parce qu'après, on enchaîne sur les avenirs.
C'est où
à la salle
Mantova.
Après, on n'a pas parlé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment les budgets se construisent.
Mais je suis étonnée qu'on n'ait pas parlé de budget.
Oui, parce que on est dans
parce
un
que
monde
c'est quand même la grosse limite à notre liberté.
Voilà, comme il nous reste un quart d'heure, j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est, on sait bien que c'est aussi très important, c'est même l'essentiel. Anne, tu commences ou
non.
Vas-y.
Monsieur Budget.
Non, je ne parle pas de Monsieur Budget.
Non, non, je plaisante.
Quoi dire? Parce qu'on est tellement en période d'austérité, de restrictions budgétaires, et je crois que c'est partout comme ça. En plus, c'est que nos gouvernements ont tellement utilisé ce mot-là, ces mots-là, austérité et restrictions budgétaires, que ça l'a absolument effrayé même le financement privé. Donc, tout le monde a peur, tout le monde garde ses sous. Et c'est sûr que dans des événements internationaux, en tout cas surtout au Québec, la part du financement privé est quand même assez importante. C'est ce qui permet justement très souvent, bon, je dirais que de façon très très grossière, là, que les subventions gouvernementales nous servent à faire la base de notre programmation, alors que le financement privé nous permet très souvent de faire des activités de développement, de faire des activités de rencontres professionnelles. Donc, c'est sûr que, voyez, comme cette année, il faut dire que c'était aussi notre première expérience. On avait déjà une pré-programmation de fait rendue à la mi-février. Et lorsqu'on a vu que le financement privé, ça serait l'équivalent d'à peu près zéro, il a fallu en catastrophe se revirer de bord, comme on dit, et redimensionner le festival. On a éliminé les spectacles qu'on avait déjà invités. J'ai trouvé ça d'une tristesse. J'étais très mal de recontacter des compagnies pour leur dire que non, finalement, ça ne serait pas possible. Parce que, bon, on a décidé, finalement, vu l'ampleur du manque à gagner, de renoncer aux spectacles dans les très, très grands plateaux plutôt que de couper de façon parcimonieuse des spectacles comme ça. On a dit, on oublie les grands plateaux, on va plutôt inviter des spectacles qui sont plus souples, qui ont besoin de moins de support technique, dont le coût de transport du matériel va être beaucoup moins cher et tout ça. Donc, c'est avec ça qu'il faut jongler constamment, et aussi le non-sens de certaines dates de dépôt de demandes par rapport à la réponse. Lorsque la réponse t'arrive, genre une semaine avant l'ouverture de ton festival, quand c'est positif, c'est « Ah, mais quand c'est négatif, c'est, oh merde! Ça va être quoi les répercussions et tout ça? » Donc, il faut jongler avec ça constamment, et ça nous met naturellement dans un état de stress. Comme si c'était pas suffisant, le stress de l'organisation purement technique et matérielle, mais il y a aussi ce stress-là avec lequel il faut composer.
Ça vous
parliez tout à fait au début des déplacements de dates de festivals que vous avez pu faire les uns et les autres.
Oui.
Pour la petite histoire, Marianne et Simon, au début, c'était au mois de mars. Eh bien, on l'a mis en novembre. Il y avait d'autres raisons, mais je vous assure qu'une raison qui a beaucoup pesé, c'est celle que tu viens de donner. Parce qu'au moins en novembre, on a nos réponses.
Je comprends très bien.
Parce que là, au mois de mars, mais attends, pour avoir des réponses, tu vois, comme on est sur des années civiles.
Oui.
C'est ça.
Alors, quand je suis arrivée en 2012, il faut savoir que j'arrivais après donc, la 25e édition du Festival de Dives. Donc, il y avait un budget qui avait été alloué à cette 25e édition, à cet anniversaire. Et puis, l'année suivante, il y a eu une année de transition. Voilà, et la personne qui a organisé l'année de transition s'est basée sur le budget de cet anniversaire. Donc, j'arrivais... Donc, je suis arrivée, il y avait un gros déficit. Il a fallu qu'en 4 mois, j'organise un festival avec 78 000 euros. Autant vous dire que c'est rien du tout, 78 000 euros, pour un festival de 5 jours. Enfin, voilà. Là, cette année, donc, on vient de fêter les 30 ans. Donc, j'ai quand même réussi à trouver des partenariats, à développer le projet, le rayonnement du projet. En 2014, on est arrivé quand même à 107 000 euros de budget. Donc, quasiment 30 000 euros de plus en 3 ans, quand même. Voilà, ça tient du miracle. Et là, pour notre 30e anniversaire, j'ai encore eu de nouveaux partenaires, et notamment des partenaires privés. Et alors, cette année, j'ai eu un espèce de miracle qui s'est produit. J'ai eu un mécène qui nous a donné 10 000 euros. Parce qu'on est une association reconnue d'intérêt général. Donc, on peut... les gens peuvent défiscaliser, avoir une déduction d'impôts, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc là, ça a été le miracle pour faire cette 30e. Donc, on a eu 128 000 euros pour faire ce 30e anniversaire. Donc, 50 000 euros de plus qu'il y a 4 ans quand je suis arrivée, ce qui est énorme. Donc là, je suis un petit peu inquiète, si vous voulez, pour la 31e qu'on organise cette année, parce que je n'aurai pas tous ces partenaires. On a eu pour la première fois la SACD, qui est vous connaissez la SACD, oui. Voilà, les droits d'auteur, la Société des auteurs, qui nous a donné 4 000 euros. On a eu l'ONDAC, donc l'Office national de diffusion artistique, n'avait jamais aidé ce festival à Dives-sur-Mer, ne considérant pas qu'on était un lieu de l'exigence ou de l'excellence artistique. Voilà. Donc ça fait plusieurs années que j'allais rencontrer l'ONDAC, et puis là, cette année, enfin, nous avons été aidés pour 3 spectacles qui sont venus sur le festival. Par l'ONDA, donc toujours l'Odia Normandie qui nous aide beaucoup. Alors par exemple pour cette prochaine édition je suis très inquiète parce que par exemple les compagnies à qui on a l'habitude de travailler en Normandie, sur notre territoire, n'ont pas de création en cours, donc je vais pas avoir beaucoup de Normands cette année. Et mine de rien, l'Odia, ça fait 2 ans que j'ai 7000 euros de l'Odia parce que j'avais 2 ou 3 créations normandes sur le festival. Alors je vous dis, moi l'origine géographique des compagnies qu'on accueille ne prime pas du tout. Je cherche pas spécialement à avoir des compagnies normandes, mais évidemment quand il y a des gens à proximité qui créent de beaux spectacles, on a envie de travailler avec eux. Donc voilà, je vous cache pas que je suis un petit peu inquiète. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que cette année on va repasser sur 4 jours parce que je vais pas du tout avoir ces partenariats que j'ai trouvés pour cette 30e édition. Alors nous, notre budget festival, il est un peu curieux parce qu'il repose sur le budget global de l'association avec notre activité de création et d'action culturelle à l'année. Par exemple, je triche complètement parce que dans le budget du festival ne sont pas comptés nos salaires.
Oui,
nous, alors on est une association, nous ne sommes que 2 permanents et le 2e poste n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, là en ce moment, je travaille toute seule. Ma collègue, je la réembauche en octobre. On est vraiment dans une situation assez précaire, faut reconnaître. Par contre, j'ai une super équipe de bénévoles. Donc voilà, ça aide bien. Mais des bénévoles qu'on forme, c'est aussi parce que depuis 4 ans, je fais énormément de formation des bénévoles. Ils deviennent professionnels, quoi. Voilà. Et donc voilà, sur le montage budgétaire, c'est compliqué. On manque de tout. Moi, j'ai fait le choix de développer vraiment dans le budget la technique. Ça, c'est un budget qui a largement augmenté chez nous, et la communication, parce qu'il me semblait indispensable quand même de faire rayonner cet événement un peu plus loin. Quand je suis arrivée, il y avait 3000 euros, je crois qu'il y avait même pas 2500 ou 3000 euros de budget communication. Donc c'était le programme un festival de 26 ans, un festival international de marionnettes avec une programmation très, très pointue. À l'époque, Patrick Boutini faisait une très belle programmation avant moi, mais autour, vraiment, il n'y avait pas de communication. Ça communiquait sur... donc nous, on est sur une partie de la côte qui s'appelle la côte Fleurie, donc avec des petites communes balnéaires, et donc la mairie allait mettre des espèces de trucs photocopiés dans les offices de tourisme et les campings de la côte. Enfin voilà, en termes de com, alors qu'on habite donc à 30 km de Caen, qui est une grande agglomération, et les gens, quand je suis arrivée, vraiment, 26e édition du festival, les gens de Caen, donc à 30 km, moi j'y habite à Caen, n'avaient jamais entendu parler du festival de marionnettes à 30 km de chez eux. Donc voilà, il fallait vraiment faire quelque chose en com. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment choisi de développer ça, la technique et la communication en termes de budget. Donc forcément, ça prend un peu sur l'artistique, mais je pense qu'on ne peut pas en faire l'impasse. Et notamment la technique, puisque comme je vous expliquais, on fait une grosse installation dans les salles, et il me semble indispensable d'accueillir les artistes au mieux. Les artistes sont toujours très inquiets de tourner dans des lieux non équipés. Donc on essaye vraiment de faire ça bien. J'ai une super équipe. Donc on a évidemment aussi fait grossir l'équipe équipe d'intermittents qui travaillent avec nous, de techniciens intermittents. Donc forcément, c'est des salaires à payer. Ça, c'est très important. Voilà, ça fait partie dans le montage budgétaire, c'est important. Mais le budget, je vous dis, on triche puisqu'on n'a pas les salaires des permanents dedans, mais le budget festival pur, je pense que je suis à 50% d'artistique, vraiment. La part session plus transport. Puisque chez nous, alors oui, il y a un truc aussi, c'est qu'avant ce festival, les artistes étaient accueillis vraiment avec des défraiements syndéac. Tout le monde avait ses défraiements, allait manger au restaurant et tout le monde était à l'hôtel. Nous, on a développé l'hébergement chez l'habitant. Alors ça, c'est génial. Parce que bon, à plein de niveaux, c'est génial pour la rencontre. Ce que je disais, le fait que ce soit, on essaye de comment dire, que ce soit vraiment un événement pour les gens de la ville. Donc là, il y a une rencontre directe entre les artistes et les gens de cette commune. Et puis évidemment, économiquement, c'est formidable quand même l'économie qu'on fait sur les hôtels. Et puis, on a une cantine de festival aussi, qui me semblait aussi, quand je vous disais sur l'aspect rencontre, au-delà de l'aspect économique d'avoir une cantine et de ne pas mettre tout le monde au restaurant avec les défraiements syndéac, il y a aussi l'aspect rencontre entre nos bénévoles, notre équipe, et puis les artistes qui ont envie de se croiser aussi quand ils sont sur des festivals et qui se connaissent et qui ont... donc voilà, tout ça participe de l'ambiance du festival aussi, mais économiquement aussi, mine de rien, c'est quand même intéressant d'avoir une cantine. Voilà, je ne sais pas, je pense que j'ai à peu près tout évoqué. Voilà.
Françoise ? Alors nous, pour revenir à certaines choses qui nous sont imposées au niveau du monde de spectacle, ça s'appelle la bonne gouvernance chez nous. C'est-à-dire qu'on doit justifier de la subvention qu'on soit, où ça passe.
Bon. Non, mais je voudrais juste rajouter pour avoir travaillé, c'est que les Belges, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais ils ont au moins aussi le mérite de dire ce que nous, Français, on n'ose pas dire.
C'est ça, on n'ose pas le dire.
T'as remarqué que j'ai donné tous mes chiffres, j'ai donné mon budget.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la commande politique, au moins c'est clair.
Ouais.
Ah, c'est juste ça que je veux dire.
Finalement, nous, on nous le sous-entend et après,
Là, les choses sont posées, alors qu'on sait bien qu'en France, c'est du non-dit, mais que ça compte dans l'évaluation. Au moins, là, les choses, elles sont posées. Après, ce qui est intéressant, c'est le tricotage, que chacun, les jeux qu'on met en place. Chacun du côté français belge avec cette commande. Ouais. Mais au moins là, elle est posée.
Alors. Non, c'est-à-dire que c'est une convention qui nous lie, qui dit bon, si vous faites un festival, vous le ferez bisannuel maintenant. Pendant 4 ans, vous le ferez bisannuel. Et donc, pendant ce festival, vous prendrez 5 fédérations à venir Bruxelles, 5 étrangers, 5 jeunes. Voilà. Mais c'est nous qui l'avons un peu aussi dirigé, parce que nous, on veut que ce soit aussi le pays pour nos artistes. On veut avoir de l'international, parce que c'est très difficile, les coûts de... Je m'emporte, mais ça ne coûte que... Les coûts de faire venir les spectacles internationaux pour des organisateurs en Belgique, c'est très compliqué. Par exemple, en jeune public, parfois, on a des reproches du Québec qui ne viennent pas assez fort. Voilà. Pour revenir à notre subvention, à l'aspect sous, nous avons inscrit une certaine somme de notre budget de fonctionnement dans le festival. À cela, évidemment, nous continuons à chercher, entre guillemets, des budgets exceptionnels. Donc, on va frapper à la porte de tel. On refrappe quand même au ministère de la Culture pour avoir quand même un budget exceptionnel pour ça, mais ça diminue. Voilà. On refrappe à la porte de la province du Hainaut, qui est partenaire depuis le début, mais pour vous expliquer, depuis 2001 à aujourd'hui, le budget financier, pas le travail de logistique, parc matériel et tout ça, a diminué de 60%. Hein ? Alors on va frapper au mécénat. Et alors on va inventer d'aller frapper. Ah tiens, ce ministre-là, peut-être on n'a pas encore cet amour. Est-ce que tu le connais ? Et voilà, c'est donc un travail, comme tu dis, et nous n'avons pas toujours la réponse. La nouvelle ministre de la Culture,
qui est tout en train de remodeler la culture de libération. Elle me plaît, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis pour l'instant, mais on a aussi frappé à sa porte, on n'a toujours pas de réponse. Comme tu dis, on ne sait pas. Donc, on jongle et notre festival coûte moins cher que celui de Dives parce que. Mais nous ne négocions pas les prix des artistes. Pour l'instant, nous les accueillons à l'hôtel. Et en fonction de l'organisation, il y a parfois une cantine et parfois des défraiements en fonction, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles dans l'heure de la cantine pour montage des montages. Et donc, on a un mix entre ces deux choses-là. Et pour le transport des internationaux, on essaie de rentrer aussi un dossier au EBI, au Royaume-Bruxelles International, qui ne nous a toujours pas donné de réponse pour le prochain festival. C'est jamais qu'une petite partie. Certains pays ont parfois une aide au déplacement. Si on essaye de le titiller, mais ici on a une Allemande, elle a dit le Goethe a dit c'est trop tard, on fait des grosses programmations, vous êtes ponctueuse. Voilà, on essaye tous azimuts. C'est notre gros travail de chercher
Et ça t'ennuie de donner ton budget, de nous dire
tu sais bien, c'est 68 000 euros sans mon salaire, évidemment.
Et tu dis ça coûte moins cher, mais tu vois, nous, je sais pas, la technique, entre la location de matériel et les salaires, je pense que ça représente bien 30 000 euros, tu vois.
Oui, mais ça, justement, là, j'en profite que nous avons la chance de bénéficier encore de la Maison de la Culture qui ne nous demande pas de payer. Mais ça vient pour tous les autres partenaires. Donc, ils ont choisi maintenant des événements auxquels ils ne demandent pas un retour financier sur l'aspect technique. Et c'est pour ça qu'aussi, les contraintes ont été renforcées en ce qui concerne le temps de travail, parce qu'eux aussi, sinon, s'ils doivent payer après. Et par contre, on a la chance d'avoir la Maison de la Culture qui, là, achète deux spectacles... voilà, quoi, tu vois, on a cet équilibre-là, alors, financier entre les partenaires, notamment pour la Maison de la Culture, nous, et puis une recherche intensive de subventionnement. Mais comme il est parti, c'est l'austérité. C'est l'austérité. Voilà, donc c'est très compliqué.
Tu peux dire combien c'est le budget
de tout le festival ? Eh bien, j'ai dit 68 000.
68 000.
Ouais. Et regardez le programme. Nous avons nous n'avons pas des. C'est ce que justement au journaliste j'ai dû répondre. Il disait ah oui, qu'est-ce que c'est l'austérité pour vous? C'est l'austérité, c'est de ne pas pouvoir faire venir des Brésiliens, des Japonais, des gens qui viennent de très loin, parce que nous n'avons pas les moyens de payer leur transport, que n'ont pas forcément dans le calendrier, justement, la constitution de la programmation ne correspond pas au calendrier de subventionnement de la promotion de leurs artistes à l'étranger, tout ça. Donc voilà, ça c'est un regret, mais bon, on a quand même des Espagnols. Non, voilà, on a une belle programmation. Je crois.
Je viens chez toi, Stéphane.
Oui.
Venez. Eh bien, il me reste. Rien à dire sur le budget, tout va bien. Ben, il me reste à vous remercier.
Merci.
À vous souhaiter une belle journée.
C'est vrai.
Et bonne continuation.
Oui. Et bonne continuation. Bon festival.